Radio Okapi. Okapi.
Les titres ce matin, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi à Kinshasa sa session de mars, une session de tous les enjeux parmi lesquels le financement des élections et le réaménagement du calendrier électoral réclamé par la majorité et l'opposition. Au Nord Kivu, soldats et policiers sont interdits de circuler la nuit avec des armes à Beni. Par cette mesure contraignante, le commandant du secteur opérationnel vise à mettre fin au cas d'extorsion dont se plaignent ces jours-ci les habitants de cette ville. La RDC a besoin de plus de 3 millions de logements sociaux, dont 800 000 à Kinshasa. Nous ferons le point dans ce journal sur ce projet initié par le gouvernement pour régler ce déficit. Bonjour à tous et merci de nous faire confiance. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale, moins de deux mois après la fin de la session extraordinaire de janvier qui avait permis de voter les quelques lois essentielles. Il s'agit de la loi portant modification de la loi électorale, de la loi portant modalités d'installation des nouvelles provinces du pays, ainsi que celle fixant les limites des provinces plus la ville de Kinshasa. C'est ce que nous explique Jacques-Yves Molima.
Les députés nationaux trouveront sur leur table de travail le calendrier électoral publié le 12 février dernier par la CENI alors qu'ils étaient en vacances parlementaires. Conformément aux us et coutumes parlementaires, il ne sera aucunement question de vote. De ce fait, les députés auront la tâche, sinon la responsabilité, de conformer les dits calendriers aux réalités du pays. Des réalités qui se conjuguent avec plusieurs enjeux. D'une part, avec la loi en rapport au découpage territorial, et d'autre part, avec la question des répartitions des sièges, tant au niveau législatif que municipal et local. Mais aussi avec la loi qui révise la loi d'identification et d'enrôlement des électeurs pour ouvrir la possibilité d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Toutes ces lois se trouvent être les lois les plus entendues et présentent des enjeux majeurs pour cette session ordinaire. Autre enjeu en marge de cette session ordinaire, ce sont les sensibilités des classes politiques. Déjà, des voix s'élèvent aussi bien au sein de l'opposition que au sein de la majorité pour d'un côté réclamer les réaménagements du calendrier électoral, ainsi que le financement des différents scrutins en perspective du respect du calendrier, et de l'autre, dénoncer la loi sur la mise en place des nouvelles provinces promulguées qui, dans l'entendement de certains, portent les germes du glissement. D'où cet appel à la responsabilité lancé à l'endroit des députés nationaux.
Et puis, ainsi que vous l'avez suivi sur nos antennes, le ministre de l'Intérieur a déposé tout récemment à la CENI la liste actualisée des partis politiques autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo. En tout cas, jusqu'au 11 mars dernier, ils sont 477 partis politiques agréés, dont 39 créés après les élections de novembre 2011 et 43 dirigé par des femmes. Évariste Beauchab pense que si l'on s'en tient à la loi sur les partis politiques, trois seulement sont en ordre pour aller aux élections. On fait le point avec vous, Innocent Olenga.
La disposition de cette loi évoquée par Évariste Beauchab oblige les partis politiques à déposer les rapports de leurs activités et leurs états financiers le 30 décembre de chaque année. Aussi doivent-ils fournir les explications sur leurs administrations à la quinzaine qui suit la date anniversaire de leurs enregistrements. Sans les citer, Beauchab déclare que seuls trois partis respectent cette disposition. Les considérations politiques priment sur cet aspect juridique au nom de la cohésion nationale, déplore certains membres de son cabinet. Signalons que sur ces 477 partis politiques en RDC, 39 sont créés après 2011, dont 13 en 2015. À parcourir les projets des sociétés de tous ces partis, ils annoncent avec pompe des grandes ambitions, mais entre les énoncés brandis et l'effectivité de l'action, il y a une grande marge. Se critiquant les uns les autres, ils ont curieusement opposition comme majorité les idéologies qui se ressemblent, ce soit le libéralisme, la sociodémocratie ou encore les sociolibéralismes. Dépourvus des moyens financiers, généralement sans bureau, la majorité de ces partis n'existe que sur papier et visiblement dans les mallettes de leurs fondateurs. Avoir seulement la configuration à l'Assemblée nationale où seulement une dizaine de partis politiques a raflé un peu plus de la moitié des sièges, il y a lieu de se faire une idée sur les poids politiques de ces partis politiques congolais qui prolifèrent tous les jours.
Le journal se poursuit maintenant au Nord Kivu où les soldats et policiers sont désormais interdits de circuler la nuit avec des armes à Beni. Cette décision des autorités a été annoncée ce dimanche après-midi par l'inspecteur urbain de la police nationale. Objectif affiché, assurer la sécurité de la population de cette ville et ses environs. Le colonel Famla Bayoua est au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous assistons à des petits cas d'extorsion là, mais je pense qu'aujourd'hui nous allons passer à la vitesse supérieure et que la loi doit être respectée dans la ville de Bénin. Et donc nous disons que ceux-là qui seront surpris en divagation avec armes, ils vont subir la rigueur de la loi. Si nous appelons les hommes en uniforme, policiers, militaires ou criminels potentiels qui se promènent avec des armes à divagation, que les services de sécurité ont pris des mesures contraignantes pour mettre hors d'état de nuit tout ce monde-là qui est en train de se promener en divagation avec armes la nuit. Il y a le commandant sauteur opérationnel Grand Nord et commandant Sukula 1 qui a été clair quant à ça, que tout policier, tout militaire qui sera interpellé la nuit en divagation avec armes, il doit être déféré à l'auditorat. Et je pense qu'il y aura des procès en procédure de flagrance qui seront organisés.
Quel est l'objectif de cette décision?
C'est juste laisser la population calme.
Non loin de là, en Ituri, dans la province orientale précisément, 42 cas de violence sexuelle ont été reçus au centre médical de la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. La coordonnatrice de cette ONG de défense des droits de l'homme révèle à Radio Okapi que 25 cas sont venus de Bounia depuis février. Noëlla Alifoua affirme que ce fléau est dû principalement à la montée de l'insécurité au sud du Rumu, à Bounia mais aussi dans le territoire de Mambasa. Elle s'est confiée à Sadiki Abou Bakar.
Au mois de février, nous avons reçu plus de 42 cas. De ces 42 cas, 25 victimes, ce sont les femmes qui ont été agressées dans la ville de Bounia. Les restes 17, ce sont des gens qui sont venus des alentours de Bounia et de quelques chefferies qui sont été éloignées de Bounia. Alors c'est pour dire que si nous avons ces cas de violence sexuelle que nous recevons au centre, des cas dénoncés qui nous atteignent, quels sont les cas qui ne nous atteignent pas? Pour les cas de viol du mois de février, la plupart sont des cas d'agression qui se sont passés lorsqu'il y a eu des vols à main armée. Nous les femmes, on a besoin de la sécurité, de la paix. L'appel que je lance aux autorités du pays, que la sécurité revienne à Ituri, dans le Sud du Rumu, à Mambasa.
Autre fait de l'actualité sur Radio Okapi, le lancement des travaux de construction de près de 74 maisons par le ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat dans la cité de la paix Cardinal. Frédéric Etchou, le 7 mars dernier, relance en définitive la question de la politique de logements sociaux en République démocratique du Congo. En effet, le besoin du pays en cette matière se lève à plus de 3 millions de logements sociaux, dont près de 800 000 pour la seule ville de Kinshasa. Et pour tenter de régler ce déficit, le gouvernement central a initié depuis plusieurs années des projets de logements sociaux à Kinshasa et dans certaines villes de l'intérieur. Où en sommes-nous à ce jour? Tentative de réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
En octobre 2005, le premier coup de pioche est donné à Mitendi, commune de Mongafula, ici à Kinshasa, pour la construction de près de 4100 logements sociaux. À l'époque, le programme du ministère de l'Urbanisme et Habitat prévoyait la construction de 3 millions de logements jusqu'en 2015. Aujourd'hui, seules 52 maisons ont poussé dans cette cité dénommée Cité Millennium. Entre-temps, la même année, les travaux débutent dans la cité musée Laurent-Désiré Kabila à Kintsuka. 152 maisons sont érigées. C'est le camp des travailleurs de la SNEL. Le reste des maisons, ainsi que le complexe commercial et sportif prévu, ne sont toujours pas construits. En octobre 2008, c'est le gouvernorat de Kinshasa qui lance la construction de 4000 maisons à Kikole et 6000 en Djili Brasserie en collaboration avec la régie immobilière de Kinshasa, Rimokin. Le projet aurait dû être achevé en 2011. Le 8 juillet 2009, le gouvernement présente au Grand Hôtel Kinshasa un projet de construction de maisons à panneaux par Shrel House. 10500 maisons devraient être construites, mais le projet n'a jamais débuté. La même année 2009, l'entreprise Safricas gagne le marché de la construction de la cité des 5 chantiers avec près de 4004 maisons. Aujourd'hui, juste une trentaine de maisons construites, mais non habitées. Entre-temps, seules les constructions de la pépinière de Bandal et des Fikine poussent, et là, il n'est pas question des sociales.
On se quitte avec cette nouvelle du Katanga. Les finalistes des différentes écoles secondaires ont été sensibilisés sur le fonctionnement de l'université de Lubumbashi et les filières qu'elle organise. C'était au cours de la journée porte ouverte organisée samedi dans cette ville. L'initiative a été saluée par les élèves qui comptent s'en inspirer pour faire le choix de la filière à suivre, sitôt le diplôme d'État en poche. Reportage à Lubumbashi, Jean Gandou.
Ils étaient nombreux à répondre à l'appel des autorités de l'université de Lubumbashi. Les informations inhérentes à la procédure d'admission, au nombre des facultés et autres écoles organisées par l'UNILU, leur ont été fournies. Ces élèves se sont ensuite dirigés dans différentes facultés qu'ils comptent embrasser très prochainement. Là, les responsables de ces facultés leur ont donné les explications nécessaires en rapport avec les filières qu'ils organisent. Une initiative saluée par les doyens des facultés qui pensent que les élèves sont donc placés devant leurs responsabilités et les différentes informations mises à leur disposition leur permettront d'opérer un bon choix au moment opportun. Didier Kilondo, doyen de la faculté d'économie.
Nous leur avons dit quelles sont les options qui sont ouvertes, quelles sont les possibilités ou les débouchés qui sont offerts par rapport à telle section. Au moment venu, ils feront un choix qui sera objectif.
Les élèves qui ont fait le déplacement de l'UNILU se sont dit édifiés et espèrent faire un bon choix lorsqu'une fois détenteurs de diplôme d'État.
Et cela nous a permis d'avoir plus d'informations sur ce que nous nous préparons à devenir demain.
Ça m'a beaucoup fait du bien à me préparer à bosser du coup que l'année prochaine que je sois aussi ici à réaliser ce que j'ai vu aujourd'hui.
Notons que c'est pour la première fois que l'UNILU organise une telle activité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir écouté.
Okapi, Radio Okapi.